Le projet, de dimension expérimentale des archives Getaway, consiste à collecter notamment des films, à les classer, les numériser, les cataloguer, les protéger de la détérioration du temps.
Le collectif Getaway, là je suis avec Joanne à Montreuil et Anne. On va vous présenter donc ce collectif qui s'est donné pour mission de collecter des archives, des luttes sociales, je pense à partir des années 60.
Oui, c'est ça. La bande chronologique, c'est disons grosso modo autour de la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui.
D'accord, donc comment est né le projet ?
Le projet a mis longtemps à trouver les formes qu'il prend aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait depuis peut-être on va dire une dizaine d'années qu'on collecte des documents. Et au début, voilà, plus comme la volonté de savoir ce qui s'est passé avant nous dans les luttes, donc quelque chose un peu comme ça, à une échelle un peu empirique, pour un espèce d'usage. Parfois, par exemple, quand on était dans des collectifs, on a écrit des brochures qui essayaient de parler des épisodes précédents qu'il y avait eu dans les luttes. Donc on avait été amené à des différents moments, mais ça peut remonter même avant 10 ans, à chercher un petit peu des documents. Et on s'est rendu compte que un certain nombre de documents, ceux qui nous intéressaient le plus, c'est-à-dire les tracts, les brochures, les choses assez éphémères, assez liées aux luttes, à un niveau minimal, on va dire, la production de la lutte, quoi, la plus concrète possible, en particulier pour les collectifs éphémères, pour les choses qui ont duré le temps d'une lutte, le temps d'un mouvement, etc., étaient durs à trouver, en fait. Parce que soit ils avaient été conservés par des personnes qui avaient pris part à ces luttes-là, mais chez eux, pas forcément rangés, etc., souvent stockés dans des conditions pas très bonne, par exemple la cave, par exemple des trucs comme ça, soit pas en fait. Enfin, voilà. Et dans cet entre-deux-là, il y a beaucoup de choses qui disparaissent parce qu'il y a une inondation, parce qu'il y a un déménagement, parce qu'il faut de la place, parce que parfois les gens meurent même. Et du coup, on s'est dit, entre le fond que nous, on avait déjà constitué, où il est plus facile de trouver des livres, les livres c'est important pour avoir des éléments extérieurs, pour relancer des pistes de recherche, mais c'était pas le cœur de ce qui nous intéressait le plus en fait. Parce que des livres, il y a une certaine circulation. Les gens digèrent plus difficilement des livres, mais le papier, vraiment, c'est ce qui part en premier. Les gens, quand ils sont pressés, ils jettent les cartons de livres, ils y demandent à droite à gauche s'ils ont le temps. Mais il n'y a pas vraiment de lieu. Évidemment, il y a des archives institutionnelles en France, mais la France, il n'y a pas énormément d'archives militantes, on va dire, à la différence d'autres pays comme par exemple l'Allemagne ou l'Italie, où c'est un peu plus répandu cette pratique-là. Et du coup, là, nous, on a réfléchi à partir du fonds qu'on avait déjà constitué et par rapport à ce sur quoi il nous intéressait de travailler, comment faire, en fait. Comment faire pour à la fois constituer une archive et en même temps que ça ne soit pas juste un lieu de consultation et du coup un lieu qui n'est pas forcément investi, en fait. Parce que quand on a cherché à quelle forme pouvait prendre le projet, on a été voir d'autres archives dans d'autres pays, etc. Et on s'est rendu compte que même dans les endroits où les gens avaient été assez nombreux au départ, ce qui n'était pas notre cas, au départ de ces initiatives-là, une vingtaine, une trentaine, des lieux où il n'y avait pas spécialement de problème pour trouver des locaux, ce qui pour nous était plus difficile, parce que ça fait longtemps que ça existe, parce que, disons, il y avait un maillage politique plus dense qu'ici, donc ils n'avaient pas trop de difficultés à trouver du fric à des moments, en faisant un concert, en faisant une initiative, etc. Eh bien, il n'en restait pas moins que, on va dire, les gens, facilement, ils croulaient sous le papier, quoi. Qu'il y avait des trucs partout, qu'ils n'avaient pas le temps de faire la moitié de ce qu'ils voulaient, et que, par contre, de l'autre côté, pas grand monde passait voir les documents, et que ceux qui passaient, en tout cas, c'était, on va dire, les visiteurs habituels des archives. Donc, soit des gens qui travaillent autour de l'université, soit éventuellement même des journalistes, enfin, voilà, un public qui a déjà l'habitude de ces lieux-là et d'avoir un certain usage des archives. Et les archives militantes devenaient, on va dire, un autre lieu potentiel où il y a des archives, mais il y avait presque pas de différence de nature, on va dire, entre visiter des grosses institutions, mettons comme la Bibliothèque nationale de France ou la BDIC à Nanterre, et visiter ces archives-là. Et du coup, nous, on s'est dit, pour pas se retrouver seul avec des montagnes de documents sur des étagères et d'être là un peu comme ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, inventer, proposer pour que, à la limite, pour le dire un peu bêtement, mais que ce soit l'archive qui vienne aux gens, quoi. Et puis, du coup, se poser la question de quel type de gens. Alors, ça, c'est... on va dire que c'est quelque chose qui se travaille en cours du fait que le projet avance, quoi. Mais un des soucis premiers, en plus du fait de collecter ces documents, donc de faire en sorte qu'ils disparaissent pas, qu'ils disparaissent plus, quoi, enfin, au moins... Ça serait que de trouver les formes pour que des gens qui ne sont pas usagers des archives, donc des gens liés aux luttes, des gens du commun, on va dire, je ne sais pas, des prolétaires ordinaires ou pas ordinaires, hein, c'est pas... puissent savoir que c'est des matériaux qui existent, et surtout, au-delà du fait que les matériaux existent, de proposer des manières de les aborder, en fait.
Donc, c'est vraiment de rendre le plus possible visibles les archives. C'est ce qui a initié le projet de l'association, parce que vous dites que vous travaillez depuis 10 ans à peu près là-dessus, mais est-ce que l'association est née
L'association n'est pas née, en fait. C'est une association de fait pour l'instant, parce qu'on n'est pas très fort pour tout ce qui est administration, etc., et que tu demandais aussi d'où ça vient. Mais nous, on vient de formes collectives, enfin des collectifs de lutte, quoi, on a commencé à faire de la politique, on va dire, disons, au milieu des années 90. Dans des collectifs éphémères, voilà, liés à des luttes, liés à des mouvements qui existent justement dans une durée potentiellement assez courte, quoi, on va dire. Et du coup, 10 ans, non, c'est pas qu'on s'est demandé pendant 10 ans quoi faire, mais peut-être bien 10 ans qu'on se dit, voilà, on a des documents. À un moment, par exemple, il y a eu le projet de mettre en commun des bibliothèques à quelques amis. On était dans le même collectif pour dire, voilà, qu'il y a un petit lieu, enfin voilà, parce que sinon, ça reste quasiment du domaine de la collection privée. Chaque militant a, enfin, sauf certains qui gardent rien, mais plus ou moins ses archives dans un coin, quelques pochettes, beaucoup de pochettes si ils sont organisés, etc. Mais voilà, comment on transformait ça, en fait, quelque part, pour sortir de nos placards? Qu'est-ce que ça devient? C'est assez impalpable, en fait. Ça peut, voilà, nourrir une réflexion, apporter des éléments historiques. Mais nous, on voulait autre chose, quoi. Et le point important, c'est aussi... que ça nous importait de participer à quelque chose dans un rapport au collectif, quoi. Voilà, mais ça, on pourra y revenir.
Anne,
si je peux rajouter quelque chose, je crois que on peut dire que les matériaux qu'on collecte et que ce qu'on cherche à en faire, les formes qu'on essaye de trouver pour en faire quelque chose, ça rentre relativement en cohérence avec notre parcours politique, c'est-à-dire avec ce qui nous intéressait politiquement. Qui a toujours été de s'intéresser aux formes d'inventivité diffuse, hors parti, hors syndicat, dans des dynamiques de lutte. Et donc c'est pour ça que ce qu'on cherche, c'est plutôt les documents liés à des luttes, au plus près des luttes éphémères, on va dire, etc. C'est aussi pour ça que ce qu'on cherche à proposer comme forme de travail, c'est des formes de travail collectifs, mais hors des sentiers institutionnels, on va dire, différents. Et on a l'espoir que travailler différemment sur ces objets-là, eh ben, ça permettrait peut-être d'en tirer une histoire différente et d'en tirer des conclusions, des analyses différentes. Voilà.
Rencontre du 11 novembre, Montreuil.
On a commencé le projet, on a un peu visité les archives, vous en avez entendu parler en Europe, et la plupart du temps, quand on a trouvé des gens... ressembler un peu à ce qu'on était, ou avoir le même genre de projet, ou avoir eu le même genre de projet que ce qu'on avait. Et bon, voilà, quand on a vu des choses exister qui ressemblaient, il y avait en général quelque chose de très très désespérant. C'est-à-dire que c'était des lieux où il y avait un monceau de documents passionnants et où il en arrivait tous les jours encore. Des lieux qui avaient été créés par quelques dizaines de personnes, par des groupes actifs et où les documents servaient à l'époque à des projets politiques, etc., et qui, assez vite, sont devenus des endroits gérés par 3-4 personnes qui passent leur journée à cataloguer, à ranger, bon, qui aiment ça, visiblement, puisqu'elles continuent à le faire 10 ans, 20 ans, hein, et le tout pour quelques individus passant dans l'année consulter quelques documents. Donc ça, par exemple, si c'était pour devenir ça, on l'aurait pas fait, quoi. On essaye, effectivement, de sortir du fond tout ce qu'on peut, parce que c'est aussi notre manière de rendre visible, effectivement, comme tu disais, les documents de notre fonds. Bon, pour l'instant, on n'a pas de catalogue, parce que c'est très très long à faire. Donc on a commencé à faire du catalogue, mais il n'y a rien du tout d'exhaustif. Donc on ne peut pas, comme ça, produire, rendre publique une image un peu de ce qu'il y a dans le fond. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'au rythme des rencontres et des thématiques qu'on propose, on sélectionne des documents qu'on pense intéressants et puis on les expose sans que forcément on en fasse quelque chose immédiatement, mais juste déjà, peut-être aussi pour proposer des pistes aux gens qui viendraient et puis qui voudraient peut-être creuser tel ou tel aspect. Voilà.
Alors là, on parle du papier. Mais je pense que vous avez aussi un fonds pour des documents son et images. Je pense que là, on peut parler de vos actions. Comment procédez-vous pour mettre en œuvre des collectes? Est-ce que c'est un des moteurs de votre
action.
Oui, alors pour ce qui est de la collecte, en fait, on n'a pas de local dédié, public. Donc on a cherché un local pendant un assez long moment, vu que c'était soit très cher, et que donc vu un peu le pari du projet, qui est quand même quelque chose sur la durée, on est prêt à tenir ça plusieurs années avant de pouvoir faire un bilan, de dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que d'autres gens viennent, est-ce que ça répond à nos attentes, est-ce qu'il y a des choses, des propositions qui nous ont été faites intéressantes, enfin, parce qu'il y a des dynamiques qui se déploient autour de ça. Du coup, on n'a pas voulu se lancer en même temps, dans le même mouvement, dans une course au fric pour trouver des sous pour payer un local tous les mois. Et puis, il faut quand même pour les documents que ça soit des locaux avec d'assez bonnes conditions. Enfin, par exemple, il y avait un local plein d'humidité, ça, il n'est pas question de... Voilà. Du coup, on est assez limité au niveau de la place. Alors, il y avait le fonds original, il y a des dons qui nous ont été faits. Il y a des gens qui nous ont donné des choses, mais en règle générale, à part une fois où on a eu un gros don d'un militant qui nous a donné toutes ses archives parce qu'il partait à l'étranger, et puis lui, il avait entendu parler de nous par quelqu'un, voilà, on va dire comme ça. Sinon, ce qui constitue les nouveaux éléments du fonds, ils sont plutôt effectivement le fruit d'une collecte active. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on a cherchées en grande partie. C'est des choses qu'on a cherchées parce qu'on avait l'envie ou il s'est trouvé qu'on allait travailler dessus, quoi, en fait. Donc, par exemple, pour l'inauguration des archives qui a eu lieu il y a un an à La Parole Errante, on voulait proposer diverses approches du rapport à ce que c'était l'archive comme type de matériau. Donc, on a cherché des sons. On a cherché des sons de radio libre. À ce moment-là, on n'en a pas trouvé assez facilement, quoi, qui nous semblait intéressant. Et du coup, Par contre, on a cherché à joindre des gens qui étaient dans ces aventures-là. Et il y en a un qui nous a confié un film, en fait. Et le film sur Radio Alice qu'on a présenté en juillet, Radio Alice à Paris. Et donc, du coup, ça nous a dit, qu'est-ce qu'on fait de ce film ? Alors, il y a toutes les histoires de support sur lesquelles on pourra revenir, mais qui, pour ce qui concerne les sons et les images, sont un des problèmes majeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transparence de ces supports-là, à la différence d'un livre, d'un texte, etc. Il faut... des outils, des techniques, réfléchir à ces outils, à ces techniques sur comment les faire migrer de support pour qu'ils puissent être lus, entendus en même temps. Enfin, c'est un des soucis principaux de l'archive sur ces questions-là, quoi, on va dire. Et donc il y avait ce film-là, et donc on s'est mis un peu à développer quelque chose autour de la radio à ce moment-là, à essayer de voir dans quoi ça s'inscrivait, Donc là, du coup, on a cherché des choses autour des radios libres, autour de Radio Alice, autour de ces... un peu de ces passages entre la France et l'Italie, l'Italie et la France. Et donc voilà, les sons et les images, c'est des choses qui nous semblent particulièrement intéressantes. On a effectivement, par exemple, dans le don de ce militant, il a été actif dans les radios, il y a énormément de sons en cassette. Hein. C'était une des questions qu'on voulait poser aussi à travers les premières rencontres sur que faire de ces sons, comment traiter ça, justement, parce que là, par contre, sans transfert ou sans catalogue efficace, il n'y a pas tellement d'accès possible à ce qu'il y a à l'intérieur. En même temps, c'est un travail énorme, il y a des centaines et des centaines de cassettes. Et du coup, là-dessus, on ne peut pas dire que ces rencontres-là ont apporté des réponses extrêmement satisfaisantes, dans la mesure où... c'est pas que les gens sont prêts à travailler autour de ça ensemble, etc. Donc pour l'instant, ça reste un peu en suspens. Nous, de notre côté, on s'est renseigné, on a été voir des gens à différents endroits sur justement quel transfert technique serait. Donc là-dessus, on est à peu près au clair, on sait quel matériel il faudrait, on en a une partie et tout. Mais c'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est plutôt, qu'est-ce qu'on en fait, qui a envie de travailler autour de ça, de quelle manière en fait. Le cinéma aussi, c'était quelque chose qui nous semblait important, intéressant, qui nous tenait aussi à cœur. Et puis, on s'est quand même rendu compte qu'il y a eu une production énorme de films dits militants, autour de la politique, des pratiques de lutte, etc. Courant des années 70, on va dire, même jusqu'aux années 80, sous des formes collectives. Et tout ça, c'est pas que ça a disparu, mais c'est quand même largement enseveli. Et on a même été assez étonnés, travailler autour de l'archive, c'est souvent se rendre compte de ce genre de choses-là, qu'il y a des choses sur lesquelles nous, on a lutté pendant des années, par exemple autour de la question des sans-papiers, en particulier contre les expulsions dans les aéroports, et qu'il y avait eu des films. Souvent, les gens nous demandaient est-ce qu'il y a des films pour animer une soirée, vraiment plus à titre d'illustration que comme intérêt principal autour de ce que ça peut être de faire des images, mais... Et il y avait 2-3 films qui circulaient, bon an, mal an, sur des périodes un peu aléatoires. Et en fait, il y a eu beaucoup de choses, de fait. Mais les films ont été coupés, je dirais, par les années, autour des années 80, même 90. Et du coup, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas d'accès. Les films sont là ou pas, des fois, effectivement, quand c'est dépendu des histoires de locaux, de disponibilité, ce que les gens passent à autre chose, les formes collectives se délitent, etc. Mais quand même, je dirais qu'il reste beaucoup, beaucoup de choses. Mais 95% sont dans les greniers, les caves, etc. Donc là, il nous semblait qu'il y avait beaucoup de possibles de ce côté-là, de choses à trouver, intéressantes, à montrer.
Alors justement, j'allais te demander, est-ce que le fait que peut-être à l'époque, la tendance du documentaire était beaucoup moins forte qu'aujourd'hui, enfin je ne sais pas, les gens faisaient des archives, enfin prenaient du son ou des images et ne les aboutissaient pas en tant que forme pour la diffuser. Alors que maintenant, il y a beaucoup de, peut-être sur les sans-papiers, de documentaires qui ont été faits, et vous, c'est pas ce qui vous intéresse, en fait. Vous, c'est vraiment le...
Non, même si, encore une fois, normalement, l'objet de collecte des archives, c'est, on va dire, on a dit de la guerre d'Algérie, mais jusqu'à aujourd'hui, effectivement, ce sur quoi on a plutôt travaillé aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on va dire, c'est des années 60-70. Après, là, au deuxième rencontre, quelqu'un est venu nous apporter un film qu'il avait fait il y a quelques années sur la question des sans-papiers, on l'a pris avec plaisir, dans le fond, etc. Mais... ce qui nous intéresse de travailler, c'est effectivement plutôt les choses dans une perspective généalogique, on va dire. Donc, de quoi ce qu'on a connu, quelque part, aujourd'hui, et le reste, quoi. Parce que c'est un peu comme ça qu'on voit les choses, l'impression d'avoir connu la fin d'un cycle de quelque chose sans savoir trop ce qui redémarre aujourd'hui. Et en même temps, tout ça en bribe, tout ça de manière très décousue, sans forme de transmission collective efficace. Ça dépend toujours d'une ou deux personnes qui, bon an, mal an, avec plus ou moins de bonne foi, voilà, racontent des choses, montrent quelques documents, mais il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas de forme collective qui travaille ça à bras-le-corps, que ce soit pour les gens en lutte ou même, encore une fois, plus en général. Et du coup, spécifiquement sur les histoires d'images, je crois qu'on peut dire quand même que la forme du collectif autour du cinéma, donc qui se préoccupe de comment filmer, quel film, de réunir du matériel, d'avoir des équipes, d'entrer selon des modalités différentes, mais en interaction avec les gens en lutte, parce que c'était quand même beaucoup ça l'enjeu, c'était filmer les luttes, même si c'est pas seulement ça l'enjeu, n'existe plus, mais depuis un moment déjà. Et que le documentaire n'est pas l'équivalent pour aujourd'hui de ça. Voilà, on peut dire. Il y a eu l'essor du documentaire, qui s'est beaucoup nourri, je pense, sur ce terreau-là, hein, effectivement. Mais ça s'est énormément transformé aussi. Et de la même manière qu'on peut dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des manières collectives de faire de l'histoire, de travailler cette matière, même si le but, ce n'est pas de faire de l'histoire, mais d'aller visiter des épisodes du passé, d'assurer des formes de transmission, de lutter quelque part contre la disparition de toute une série d'épisodes qui... à notre sens, sont beaucoup à nous apprendre, sont assez réjouissants, intéressants, enrichissants. Enfin, pour le dire autrement, pour qui s'intéresse aux luttes ou aux questions révolutionnaires, il y a des moments donnés, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 30 ans, 40 ans, il y a énormément de gens qui se sont attelés à ces questions-là, avec, je pense aussi d'ailleurs, un entrain, un enthousiasme qui n'existe pas forcément aujourd'hui. Les gens, ils pensaient qu'ils allaient faire la révolution. Et du coup, ça serait dommage, quelque part, de se priver de tout cet apport-là, qui est le nôtre, mais qui est voilà, en sommeil, enseveli. Et comme je le disais, là, pour reprendre la phrase précédente, comme on pense que procéder de cette manière-là, c'est-à-dire collectivement, en réfléchissant, de manière ouverte, etc., ça apporte d'autres lectures de cette histoire-là. C'est-à-dire, il n'y a pas de neutralité dans la manière d'aborder le passé, donc les modalités historiques de l'université de le faire donnent un certain nombre de résultats, mais nous, on essaye d'inventer d'autres manières pour trouver d'autres choses. Et bah, de la même manière, faire collectivement des images, du cinéma, des films, ça ne donne pas le même genre de film, d'images, d'objets que faire du documentaire aussi sympathique ou intelligent, soit les gens qui font du documentaire.
Oui, c'est un peu reconstituer une histoire... de ce qui a documenté ces luttes, enfin souvent de la documentation faite au niveau du collectif, et retourner à cette source-là et peut-être remonter et voir si justement il peut se passer encore des choses dans cette forme d'archives.
Bah, je pense que cette manière de faire des images-là, on peut l'apprendre au moins de deux manières, c'est-à-dire que d'un côté, ce sont des archives comme les autres, c'est bête de le dire comme ça, parce que justement non, mais disons, prenons-le de ce côté-là, donc il y a des images des luttes, des manifs, des choses que les tracts nous restituent pas forcément, des choses que les photos, enfin voilà, il y a les corps, il y a les gens, il y a les voix, il y a les banderoles, il y a les slogans, il y a les lieux, etc. Et ce qui nous semble un des éléments importants, par exemple, typiquement, les lieux occupés, les squats ou même les occupations d'administration, bah, une fois que c'est fini. Et il y a quelque chose qui se désinscrit du paysage, il y a quelque chose qui se normalise, qui s'efface. Et ces films, ça nous restitue quelque chose de ça d'une manière vivante, comme le peut pas un autre médium, d'une certaine manière. Et du coup, voilà, en complément, on va dire, des textes, éventuellement des entretiens qu'on peut effectuer avec des gens, des témoignages, en complément des archives qu'on peut trouver, des livres là-dessus. Voilà. Ça, c'est une pièce importante, on va dire. Voilà. Mais ce n'est pas seulement ça. Filmer, c'est aussi, effectivement, au moins dans certaines approches ou dans certaines tentatives qu'il y a eu, c'est un rapport d'intervention dans la lutte. Il ne s'agit pas juste d'enregistrer la lutte pour la transposer ailleurs, pour voilà, populariser, on va dire, faire circuler simplement de l'information, même si ça peut rencontrer ce rôle-là. Mais il s'agit aussi de des gens d'ailleurs, qui n'ont pas forcément à voir avec la lutte au premier abord, là, parce qu'ils ne sont pas du lieu, ils ne sont pas dans la situation dite, qui viennent avec la caméra, qui proposent parfois qu'on appelle, enfin voilà. Et du coup, nous, la question de l'intervention, intervenir dans la lutte, c'est quelque chose qui est assez fondamental pour nous, que ce soit quand on a fait de la politique ou aujourd'hui dans la perspective de ces archives-là, bah, c'est aussi un peu retrouver ces fils-là. On a découvert, parce que quelqu'un nous a confié à un grand nombre de cette revue-là de cinéma politique, par exemple. Il y a beaucoup d'éléments dans l'Elias qu'on a produit autour du cinéma qui sont téléchargeables sur le site. Donc ce groupe-là, on va dire, qui faisait cette revue, mais pas seulement, qui faisait des films, qu'on distribuait, qui organisait des projections, etc., et qui menait une réflexion assez large autour de qu'est-ce que c'est faire des images, et ben, d'une certaine manière, on peut dire qu'il fonctionnait comme on essaie que les archives fonctionnent un peu. C'est-à-dire qu'il y a un objet, bon, nous, ça serait l'archive, c'était le cinéma. Après, il y a des passerelles, il y a des tout ça, mais voilà, ce n'est pas les mêmes objets. Mais il se pose la question de... On peut dire que nous, on se pose la question de comment intervenir avec des archives, en fait. Comment proposer ça. Et donc, retrouver ces formes-là collectives, les comprendre, chercher ce qu'il y avait de spécifique dans ces médiums-là, le cinéma, justement, bah, qui demande, quelque part, au moins un minima du matériel, quelques connaissances. Alors, il y a aussi beaucoup de groupes qui ont travaillé autour de ça, en choisissant le format Super 8, qui était assez répandu, de dire, justement, on n'est pas pour la professionnalisation, servons-nous des caméras qui existent partout. Enfin, voilà, il y a, c'est des débats qu'on traversait et puis qui sont assez riches. Hein. Et bah, du coup, ça nous permet aussi de, voilà, de voir qu'est-ce qui s'est pratiqué autour de choses, on va dire, qui sont périphériques aux luttes quelque part, même si ce n'est pas le but dépréciatif, mais qui ne sont pas bah, la lutte en tant que telle, mais qui ont un rapport avec elle, même très proche, qui la travaillent, qui sont travaillés par elle, quelque part. Et du coup, on peut dire qu'on essaye voilà, de faire des archives de cette manière-là, nous aussi. Et sur ces films-là, comme je le disais, il y en a énormément. Moi, je pense que, enfin, on a une revue dont on se sert régulièrement, qui est sortie en 76. Donc, on va dire que c'est vraiment au milieu, voire presque au début, même s'il y a déjà pas mal d'expérience, hein, de ce cinéma-là. Il y a 500 films recensés. Je pense qu'il y a, il y a eu des milliers de choses. On a découvert aussi un peu que... Enfin, découvert pour nous, hein, peut-être beaucoup de gens le savaient, mais qu'il y a eu aussi toute l'époque des diaporamas, par exemple, qui était là aussi, pareil, le espèce de niveau infra-film, on va dire, mais avec ces nettes de noblesse. C'est-à-dire qu'ils avaient des sons, ils avaient des diaporamas topés sur des machines spéciales qui lançaient. Donc c'est comme un film à image fixe, en fait. Et tout ça, tous ces matériaux-là, qui documentent des luttes, qui racontent voilà, des tentatives, des épisodes. Encore une fois, ils ne sont pas accessibles. Enfin, ils sont tout près, mais pas visibles. Et c'est normal que les gens qui les ont gardés, les ont portés, ne sachent pas forcément qu'en faire. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi que ça permet les archives. C'est que dans cette interaction, dans ces regards pas de la même époque, dans le fait, bah, même les gens qui ont ces matériaux-là, par exemple autour des films, bah, ils arrivent à se, quelque part, même à minima, mais à se remettre au travail autour de ça, avec nous, en lien avec nous, parfois juste ils nous les confient. Mais disons, il y a besoin d'un ailleurs, en fait, pour que quelque chose se déclenche. Nous, on a besoin d'un ailleurs qui est celui du passé, celui de ces gens, celui du présent aussi, que des gens viennent nous voir pour proposer des choses, en discuter, d'où l'intérêt des rencontres aussi pour nous. Hein. Mais il y a besoin, comme ça, d'une espèce d'interaction avec du dehors. On va dire, quelque part, c'est aussi ça, l'idée de l'intervention, quoi. C'est qu'il faut que des choses se mélangent, qui ne sont pas homogènes, pour qu'il y ait quelque chose qui se produise. Et c'est un peu ça qu'on demande au rapport au passé, quoi, quelque part. Mais par rapport à tous ces films-là, voilà, il y avait différentes pistes qui avaient été proposées aux deuxièmes rencontres, d'envisager éventuellement des projections plus ou moins régulières. Voilà, il y avait différentes idées, différents projets. Parce que, comme on le disait, tu parlais des sons et des images, c'est des médiums qui réclament un traitement particulier. Et à la fois pour s'intéresser à ces médiums en tant que tels, donc par exemple la radio, qui pose des questions sur le rapport à l'émission, à tout ça, qui sont, me semblent très intéressants et qui, pareil, après la période des radios libres, a été un peu, s'en est trouvé un peu modifié, voire transformé. Enfin, il y avait moins l'idée de la radio comme une pratique d'intervention, justement, même dans le champ des radios, dire proches des luttes, etc. C'est devenu des radios associatives avec des formes plus classiques, parce que plus pérennes, plus dans la durée, avec des programmes, etc. Mais avant, il y a eu toute une série d'expérimentations. Comme on va dire, il y a une série d'expérimentations autour de l'image et que le documentaire ne résume pas, enfin ne contient pas quelque part. Et bien, tous ces matériaux-là, il faut faire un travail spécifique de collecte, de traitement, pour que même dans d'autres groupes de travail, on puisse y avoir accès. Pour le dire, par exemple, il y a eu un petit groupe de travail qui est maintenant plus ou moins en sommeil, en cours de, on réfléchit à comment redémarrer ça autour de la question de l'école, donc de la pédagogie, des luttes de scolariser. Bon, ben, il y a une série de films, une série de documents, images, sans doute sons, évidemment, sans doute des émissions qui ont été faites, soit sur des luttes de scolariser, soit sur des questions pédagogiques. Si on n'a pas en amont mis en place de quoi traiter, collecter, on n'y aura pas accès. Donc, aussi, s'intéresser à ces matériaux spécifiques, c'est se donner la possibilité que dans le cadre d'autres travaux qui ne sont pas sur ces matériaux spécifiques, on puisse puiser dedans. Et ce qui diversifie quand même les supports sur lesquels on peut travailler, parce que sinon, on est rattaché au papier seulement. Et la radio, voilà, c'est la voix, les images, c'est, comme on le disait tout à l'heure, un rapport à des représentations qu'on n'a pas sans les images, c'est des corps, des fois c'est des effets de masse aussi, enfin, on l'a vu sur... Par exemple, on a projeté un film pendant les deuxièmes rencontres sur les luttes sur le logement entre fin 71 et 72 à Paris, où là, il y a vraiment quelque chose qui démarre ou qui redémarre, quelque chose qui se passe entre une série de lieux occupés, les comités d'action dans les quartiers, le secours rouge. Enfin, il y a une émulation comme ça assez forte et il y a une manif sur le logement. Mais on voit beaucoup, beaucoup de monde quoi, pour défendre les maisons. Et donc ça, on a beau le savoir, etc., le voir en images, voir les gens, la diversité des banderoles, etc., c'est un mode de restitution qui ne provoque pas le même effet à la réception que de lire dans un texte. On est tétan, ce qu'on ne peut jamais savoir si c'est vrai en plus. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça dans ces spécificités qui nous semblait intéressant de travailler. Ouais.
Et plus précisément, ces images de lutte sur le logement au début des années 70, elles avaient été, vous savez par qui elles avaient été faites ?
Oui. C'était, on va dire, dans les prémices de ce qui est devenu après une forme collective qui s'intéressait au cinéma qui s'appelait La Pique. Mais à ce moment-là, c'était un groupe justement qui était proche d'un comité d'action dans le 5e, autour de Maubert. Et à ce moment-là, ils disent le quartier de la Maube était en pleine restructuration, mais pas seulement lui. Hein, c'était le moment du Marais, de la destruction des Halles. Enfin, ça allait venir très vite, quoi. Donc là, c'est 71-72, c'est assez tôt. Mais bon, c'est dans ce mouvement-là des années 70, la restructuration du centre de Paris. Et donc, il y a un quartier qui, de ce qu'ils en disent, parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on a travaillé très, très précisément, mais il y avait beaucoup d'artisans qui, du coup, enfin, voilà, étaient virés, beaucoup d'immeubles qui allaient être détruits, etc. Il y a eu des occupations de logements qui étaient vides. Et du coup, ce groupe-là, qui avait des attraits pour le cinéma, en lien avec quelque chose qui s'appelait l'ACDL, l'Association des comités de défense des locataires, a fait ce film. Alors ce film-là, il a une histoire un peu particulière, les maisons vides. Moi, je le trouve très, 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 enfin, très intéressant et puis très joyeux. Je sais pas comment dire. Enfin, il communique une espèce de, même s'il est dans un discours un peu mao-didactique, comme ça peut se faire, etc. Je le trouve très, enfin ouais, ça fait très plaisir de le voir et de le montrer, quoi. Et ce film-là, on a deux versions. On a un master, une première copie où le montage image et le montage son est pas exactement le même. On sait qu'il a été projeté, mais peu. Et il n'est pas complètement abouti au sens où, par exemple, des fois, il n'y a pas de bande-son. La bande-son se coupe, voilà, il a ce côté un peu comme ça, un peu erratique. Mais ce qui, aujourd'hui, fait d'ailleurs aussi son charme. Hein, mais... ce film-là, il en est question dans un texte qu'on a remis aussi dans l'Alias, dans le texte de présentation de deux groupes, La Pique et Thor Eben, où il le cite. On a demandé, on sait qu'ils l'ont projeté entre militants dans des maisons occupées, mais il n'a jamais été au catalogue d'un des groupes de diffusion. Donc il n'a jamais été diffusé comme plein d'autres films l'étaient, c'est-à-dire les gens pouvaient le louer, le projeter ailleurs, etc. Et ce film-là, avant ce film, il y a les mêmes gens qui ont fait un autre projet qui, lui, a pas vu le jour en tant que film. Enfin, on en reparlera, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, il y a eu beaucoup de rush, beaucoup d'images tournées autour des bidonvilles en banlieue parisienne. Entre 69 et 71, c'est pas le même format. Ça, c'est en 16 mm. Le film sur les maisons vides, c'est en Super 8. Bon, le 16 mm, c'est plus cher. C'est un format semi-professionnel. C'était le format de la télé, c'était le format des actualités, etc. Donc, il y avait moyen de récupérer de la pellicule sans forcément la payer, mais les frais de laboratoire sont élevés, mais ça demande du matériel, bah, la table de montage, etc., plus conséquent, plus lourd, etc. Donc, ils ont fait ça avant, ils ont le même groupe, enfin, les mêmes personnes, ils ont, et pas sous la forme d'un groupe, là, encore, vraiment, surtout pour les bidonvilles, c'est-à-dire que les bidonvilles, vraiment, c'est des gens qui faisaient des choses ensemble, de la politique, par ailleurs, et puis qui avaient envie de filmer, je crois, c'était quelque chose d'important. Quelqu'un leur a proposé de venir dans un bidonville, donc ils ont été, ils n'ont pas fait que filmer, hein. Ils ont discuté, ils ont rencontré les gens, ils prenaient pas toujours la caméra, mais ils ont quand même beaucoup filmé. Au début, pour ce qu'on a pu recomposer pour l'instant, si on, voilà, parfois les souvenirs sont un peu flous, vu que c'est pas des films, c'est pas un film qui est sorti, bah, il n'y a pas la documentation qui peut exister sinon, il n'y a pas les fiches et tout ça, mais on a quand même beaucoup de documents papier, on a cette chance-là, que une personne a bien bien conservé tout ça. Et du coup, ils auraient découvert les cités de transit dans le 13e, en fait, et qu'ils auraient été assez impressionnés, ils auraient commencé à filmer, puis qu'ils ont dû avoir un contact dans un bidonville, donc il y a quelqu'un qui a fait un peu office de guide, et après ils ont été dans des différents bidonvilles, à Nanterre, à Argenteuil, à Champigny, à Saint-Denis, enfin voilà, dans différents lieux filmés pendant cette période de 2 ans, quoi. Donc c'est un assez gros chantier. Ils ont commencé à monter aussi. Une des personnes nous a dit dernièrement qu'elle pensait qu'il y avait eu un montage au moins sur la première période, Chevaleret, quelque chose qui s'appellerait c'est quoi, c'est drôle la vie, quelque chose comme ça. Ça dit rien aux autres. Pour l'instant, nous, on a récupéré donc toutes les boîtes films. C'est assez bon. Il y en a qui sont un peu détériorés par l'effet du temps, attaqués par le syndrome du vinaigre, donc faut les isoler. Ça va se détériorer de manière inexorable maintenant que le syndrome est lancé, donc faut faire quelque chose assez vite.
Mais là, pardon, Johan, tu parles du film qui a été fait dans les bidonvilles de Champigny, non?
Oui.
Alors les images, elles ont été tournées dans plusieurs bidonvilles dans la même période, 69-71, effectivement. Donc il y a Champigny, Chevaleret, Massy. Saint-Denis, est-ce que j'en oublie ? Nanterre, ouais, Nanterre-Argenteuil. Donc oui, c'est l'histoire de ces images-là, qui sont des images qui nous ont mis sur la piste d'un projet un peu particulier, puisque là, pour le coup, on face à ces bobines, on est dans un souci à la fois de conservation, donc de numérisation, etc., puisqu'il y en a qui sont dans une dégradation qui va aller forcément en s'empirant rapidement. Et puis, on est dans un souci immédiat de savoir quoi en faire, puisqu'on a ces rushs et toutes les traces d'un début de travail qui a été fait à une époque donnée, donc fin des années 60, début des années 70, et qui se présente à nous. Et du coup, c'est très, très tentant de se demander quoi en faire aujourd'hui. Donc, poursuivre ce travail-là, forcément autrement, puisqu'on n'aura pas le même regard dessus, et puisque voilà. Donc il y a des choses qui nous laissent présager que les images sont belles, même si on ne peut pas toutes les voir. Il y a quelques pellicules en positif. Donc effectivement, on a projeté un des rushs en positif qui sont donc immédiatement visibles lors des rencontres. Il y a du son, sachant que c'est du 16 mm double bande. Donc c'est deux bandes, en fait, une bande d'image, une bande de son. Et donc il faut trouver quelle bande son correspond à quelle bande d'image. Donc il y a tout un puzzle à refaire, sachant que ce sera un puzzle à trous. Il en manque assez probablement. Il y a des photos qui sont très très belles et donc qui laissent présager que les images seront aussi très intéressantes. Et puis il y a une perspective de travail qu'on retrouve dans les carnets, etc., puis dans le discours de la personne qui nous les a confiés, qui nous intéresse aussi, puisque l'idée, c'est vraiment pas d'exhiber la misère. L'idée, c'est plutôt de, si on a bien compris et bien vu certaines images, c'est plutôt de témoigner de ce lieu-là et de comprendre un peu quelles formes de vie s'y sont développées, quelles formes de solidarité aussi, quel type de relations. Voilà. Donc on est en train de former un groupe de travail pour travailler sur ces images, avec à la clé quand même un projet qui aboutirait sans doute à un nouveau film, sachant que pour l'instant, la première étape sera de réussir à voir toutes les images pour voir exactement quoi en faire. Donc bon, c'est un projet un peu spécifique, puisqu'il y a ces objets qui sont là, que ça va demander sans doute un peu de financement, voire beaucoup de financement selon ce qu'on veut faire précisément. Et donc, quand on parlait tout à l'heure de combien on est dans les archives, on essaye de trouver plusieurs portes d'entrée dans notre projet. Donc, les gens, ils peuvent y rentrer pour s'intéresser au cœur des archives. C'est assez rare, les gens qui veulent s'intéresser comme ça aux archives. Ça nous est un petit peu arrivé, mais c'est assez rare. Mais les gens, ils peuvent aussi trouver le moyen d'y rentrer par un biais particulier pour s'intéresser à une question particulière. Et par exemple, participer à ce projet de film sur les bidonvilles, ça fait partie des accès possibles. Alors évidemment, ce qui nous motive aussi, c'est le lien entre cette situation des bidonvilles des années 70 et les bidonvilles actuelles, autour de la situation en particulier des Roms. Par exemple, là, récemment, on a vu un très beau film de quelqu'un qui s'appelle José Vieira sur des bidonvilles de Rome qui s'appelle « Le bateau en carton ». Et on a pu, du coup, qui a été tourné récemment, hein, 2009-2010, je crois. Et du coup, on a pu, comme ça, essayer de commencer à réfléchir sur les différences et les points communs qu'il peut y avoir. Et du coup, l'intérêt, ben, de montrer les images de ces films, de ces bidonvilles des années 70 aujourd'hui. Et puis peut-être, du coup, repenser quoi en faire, quoi.
Oui, je voulais reparler d'une archive, hein, que j'ai vue sur les bidonvilles. Donc, c'est une communauté portugaise, hein, justement. Mmh. Effectivement, c'était Patrick Prado. Alors, je pense que c'est lui qui était à l'origine de ces images.
Il fait partie. En fait, voilà. C'était plusieurs. Hein, c'était un petit collectif. C'est effectivement lui qui nous a confié les images, en revanche. Donc, c'était lui qui les gardait, qui nous les a confiées.
Retour sur la projection du film réalisé par Patrick Prado dans le bidonville de Champigny au début des années 70. Ce film, qui est un très court extrait de 2 minutes environ, fait partie d'une série d'une trentaine d'heures de rush qui ont été retrouvées dans une cave de Montmartre suite aux actions de collecte active opérées par le collectif Getaway. C'est un témoignage du quotidien des habitants de ce bidonville que j'ai eu le plaisir de découvrir lors des rencontres des archives Getaway le 11 novembre dernier. Petit film en noir et blanc, Patrick Prado.
Sur les bidonvilles, de même qu'on faisait à Paris le film que certains d'entre vous ont vu hier sur les maisons vides, on a travaillé aussi sur les banlieues, en particulier Charenton, bidonville portugais, non, Charenton, Champigny, bidonville portugais, Charenton algérien avec des Italiens et Nanterre algérien. Et Saint-Denis mixte, portugais, algérien, français. On a fait donc des images semi-clandestines parce qu'on était poursuivi par le Parti communiste CGT. Et donc le film s'est arrêté faute de moyens au bout d'un an de tournage. On avait commencé à le monter sur un tableau montage Atlas et on n'a pas pu terminer. Donc j'avais décidé à l'époque qu'on faisait le film sur les mises en vide en supervision sonore, ça coûtait moins cher, et l'autre restait en état, et qu'on a retrouvé donc 40 ans après, grâce à toi, et qui est, on ne sait pas quoi en faire, on verra bien, on en parlera après, peut-être ce soir. Voilà, donc il n'est pas sonore, on peut imaginer ce que ça pourrait donner. Alors, voilà. On éteint.
Comment s'est passé ce lien que vous avez eu avec Patrick Prado? Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que c'est lui qui est venu vous voir? Et quel est un peu son historique à lui?
Il était dans différents collectifs, justement.
Il était militant.
Ouais, voilà, il faisait, ouais, c'est ça, militant. Et puis ils étaient quelques-uns à avoir envie de, justement, il fait partie de ceux qui avaient envie de filmer, qui, je pense, qui aimait le cinéma, qui s'intéressait à ce que ça pouvait produire, et du coup, après il a travaillé comme anthropologue, mais voilà, de manière un peu distincte en tout cas de ces questions-là, quoi, sur les bidonvilles, tout ça. Comment ça s'est passé? En fait, on a rencontré quelqu'un il y a quelques années qui avait été, lui, dans Thor Eben, donc un groupe breton.
Et c'est suite à une collecte active, quand même.
Voilà,
c'est parce qu'on. La question du cinéma et des collectifs coopératifs de distribution.
Et en remontant ces pistes-là, on a rencontré Patrick qui avait, lui, assez bien gardé un certain nombre de choses. Donc on a commencé, on n'a pas tout vu encore, mais puis on a découvert ces choses-là un peu. Il y a aussi le cinétract.
C'est quelqu'un qui avait beaucoup de choses, à la fois images, papier, etc., mais qui les gardait chez lui. Et l'impression qu'on a eue un peu, c'est qu'il attendait l'occasion, quelque chose qui lui convienne, qui lui plaise quoi, comme proposition. Il avait déjà eu d'autres propositions auxquelles il n'avait pas spécialement répondu, et je pense qu'il y a c'est une vraie rencontre au sens où les modalités sur lesquelles on propose le projet lui conviennent vraiment et l'intéressent vraiment. Donc c'est presque un donateur qui participe aux archives. D'ailleurs, il a été très présent lors des rencontres là sur le cinéma, et il est très très encourageant. Enfin, vraiment, il est très content de ce qu'on peut faire des matériaux qu'il nous donne, et c'est très intéressant de discuter avec lui. Donc, par exemple, le projet des bidonvilles, je pense qu'il se ferait sans doute en lien avec lui, sans qu'il prenne une position spécialement d'auteur, parce que je pense que ce serait pas ça le sujet. Mais voilà, je pense que ça l'intéresse aussi de voir comment, à plusieurs, on pourrait se reposer la question aujourd'hui de faire ce film, et ça l'intéresse d'y participer.
Oui, je pense qu'aussi, lui, il est intéressé dans une optique de faire un peu une relation entre ce qui s'est passé il y a 30 ans et puis ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Ouais. Et il avait, lui, cette idée, cette proposition qu'il a déjà fait pour d'autres types d'images, mais de faire aujourd'hui un film essentiellement à partir d'images d'archives, mais avec une voix voilà, qui parle d'aujourd'hui, quoi, quelque part. Pour les bidonvilles, je ne sais pas exactement si ça va être ça, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de matériaux, et que... Enfin, une hypothèse qu'on fait, par exemple, pour l'instant, c'est que le film de 72, Les Maisons Vides, s'il a eu lieu, c'est aussi parce qu'il était en lien avec une lutte, donc je pense dans une certaine forme d'actualité, voire d'urgence, et que, quelque part, un certain discours politique était aussi présent dans ce qu'on voyait, dans ce qui se passait, dans le fait que c'est des occupations, il y a des banderoles, donc voilà, ça s'était emporté un peu par ce mouvement-là. Alors que le film sur les bidonvilles, enfin ces images-là, etc., c'était quelque chose de beaucoup plus grande ampleur. Les bidonvilles, il y en a plein. Je pense que c'est une des choses, d'ailleurs, qui a presque happé les gens qui se sont intéressés aux bidonvilles en venant d'ailleurs, parce que c'est pas les seuls, même s'ils sont pas très nombreux à l'avoir fait. Enfin, on retrouve, et on est en train de travailler aussi là-dessus dans le cadre du groupe de travail sur les bidonvilles, mais de quel mouvement il y a eu vers les bidonvilles, de gens qui faisaient de la politique, quel mouvement de bidonville il y a eu, parce qu'à des moments, il y a eu des luttes contre la destruction, etc. C'est la grandeur, quoi. C'est cette espèce d'ampleur, cette espèce de ville, quoi, que c'est. Et du coup, voilà, je pense que, du coup, filmer ces villes, quand il y en a plusieurs, enfin, ça pouvait être presque un dédale dans lequel on se perd, et sans parler de ce que c'est faire un film, qui est quand même quelque chose aussi qui prend énormément de temps, qui l'a demandé des moyens financiers quand même conséquents, etc. Donc là, on se demande ce qu'on va en faire. Il y a peut-être l'idée d'un film, il y a se servir des matériaux qu'on a autour, donc ces cahiers de tournage, des notes, des photos, etc. Peut-être pour restituer quelque chose de plus complexe qu'un film, enfin... C'est à voir, mais...
Ces cahiers de tournage, c'est toujours avec Patrick Prado ?
En fait, lui, avec les bobines, il avait conservé une grande, grande partie, sans doute, des matériaux de l'époque, quoi. Donc, ouais, c'était... Il a des cahiers, il y a des pochettes avec des copies de courrier, des notes. Enfin, il y a beaucoup de plans qui sont aussi notés et détaillés, c'est-à-dire quel jour, où, donc ce qui va être précieux pour la suite. Il y a des corrélations entre les photos et les images film, il y a des notes sur les sons, il y a des projets de montage, donc tel banc-titre pour tel moment du générique, telle chose qui doit venir en illustration, il faudra reprendre quelques images de ça pour faire une espèce de... Voilà. Donc il y a beaucoup de projets comme ça, donc on va voir, il faut là y aller de plus près, puis s'atteler à essayer de mettre tout ça en forme, et puis de voir après avec tous ces matériaux-là quelles sont les idées ou les envies et les propositions. Mais donc ça, c'est effectivement, comme je disais, quelque chose d'assez, euh, assez spécial dans la mesure où c'est un projet un peu sur long terme, sur un format, enfin la question de faire un film qui n'est pas quelque chose avec lequel on est, nous là qui parlons, coutumiers, et dans les archives on n'est pas nombreux à avoir cette expérience, même si certains l'ont. Enfin voilà, donc c'est un vrai, quelque part un vrai chantier à part entière, quoi. Et ce qui... ça serait aussi intéressant de continuer quelque chose sur la question du cinéma, pas plus en général, mais d'une manière plus... qui accompagnerait un peu tout ça, mais la poursuite du travail qui a été mené dans les deuxièmes rencontres, c'est-à-dire de voir un peu quelle coopérative il y a eu, quel film, et donc on va essayer de mener ça sur différents plans, mais il faut trouver le monde aussi pour faire toutes ces choses-là, quoi.
Oui, en fait, je me souviens que le rush que j'avais vu sur les bidonvilles, il était, le son n'avait pas pu être monté, je pense qu'il existe. Et donc, est-ce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir présenter les films avec le son, bien sûr, mais
Alors là, c'est comme le disait Anne tout à l'heure, c'était du 16 mm, où il y avait l'image d'un côté et le son d'un autre. C'est plus facile de trouver des projecteurs image 16 mm que pour le son. C'est un peu plus difficile. Et puis surtout, on n'a pas les équipes. Enfin, tout n'est pas rangé ensemble, quoi. Donc tout est éparpillé. Et on sait sans doute qu'il manque des morceaux. Donc il y a peut-être le son des images qu'on a vues. Il y a dû y avoir. On voit que les gens parlent et qu'il y a un enregistreur, mais nous, on l'aura peut-être pas. Donc le premier travail du groupe de travail, ça va être la numérisation et une espèce de pré-montage, de voir quels sons correspondent à quelles images, qu'est-ce qui manque. Il y a du négatif qui n'a pas été tiré en positif, ça maintenant en numérique, c'est facile d'inverser, etc. Donc voilà, de faire une espèce d'inventaire dans un premier temps. Et après, alors là, c'est le groupe de travail qui déterminera ça, mais est-ce qu'il y aura des espèces de projections publiques ou pas, des matériaux en cours de travail, ça, voilà, c'est trop tôt pour le dire. Mais ça pourrait être une des voies choisies. On avait déjà parlé de faire ça pour d'autres choses, de faire des espèces de moments ouverts, des moments publics, mais de chantier un peu, quoi, qui ne soit pas... comme là, quelque chose d'assez terminé. Enfin, les films qu'on a présentés, même s'il y avait des questions à poser, même s'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément des films, d'ailleurs, puisqu'il y avait ces bouts de rush, il y avait des bouts à bouts, des choses qui n'avaient pas été montées autrement que voilà, juste les images les unes après les autres. Là, ça serait encore une autre tentative. Ça serait vraiment voilà, de servir de l'intelligence collective pour trouver les formes les plus adéquates pour en faire quelque chose d'intéressant, quoi.
J'avais encore une question, moi. Pourquoi Getaway ? Est-ce que c'est parce qu'il y a l'idée des choses qui sont un peu en perdition, enfin qu'on essaie de récupérer, des choses qui sont parties ?
Non, Getaway, c'est pas ça. Un vieux camarade nous a dit qu'il pensait que c'était peut-être Je t'avais aussi. Non, c'est pas. Enfin, on peut faire des jeux de mots ou des hypothèses, hein, mais. Getaway, c'était pour plusieurs raisons. La première, mais en général, on trouvait ça intéressant de personnifier cette archive, c'est-à-dire qu'elle ait son nom, quoi, et que ça soit pas un acronyme, archive sur, etc., même si elle sous-titre lutte sociale et groupe révolutionnaire. Ça, c'est une première raison. Getaway, c'est plutôt l'idée de la ligne de fuite, en fait, de trouver la porte de sortie par rapport à une situation... ce qui correspond aussi plus là à notre histoire dans le rapport à la politique, mais il nous semble aussi à une époque où bah, les horizons, en tout cas à niveau vertical, sont un peu bouchés, un peu compliqués de s'y retrouver, comment, par où ça doit passer, etc. Et l'idée de Getaway avec l'escalier, qui est un peu, on va dire, le logo, mais l'image qu'on utilise fréquemment, l'escalier à l'américaine avec les paliers, l'escalier de secours, là, qui permet d'accéder au toit. Donc c'est aussi l'idée de pouvoir... un peu prendre de la hauteur, partir à l'assaut du ciel en essayant de changer un peu la perspective, quoi, de trouver d'autres moyens par où ça passe, comment ça marche, etc. Et ce projet d'archive, par rapport à l'histoire dont on a parlé, quelque part, il prend à contre-pied un certain nombre de pratiques qu'on a eues. On le disait dans les collectifs éphémères, s'il y a quelque chose qui ne peut pas être éphémère, c'est l'archive. Il faut quelque chose qui dure, qui s'installe dans le temps, qui, quelque part, se spécialise, enfin, au sens où, voilà, les questions de conservation, de stockage, d'usage, le catalogue, tout ça, c'est des choses de la durée, même si l'archive peut être pris dans certaines urgences. C'est pas du tout le temps de la lutte, le temps de l'archive, quoi. C'est le temps de l'inscription aussi, c'est le temps de tout ça. Et du coup, par rapport à des collectifs éphémères qui sont censés pouvoir durer le temps d'une lutte et pas se scléroser dans des formes d'organisation au-delà de ce qui semble nécessaire à ses participants, l'archive, c'est presque l'inverse de ce strict point de vue-là, par exemple. Donc voilà, Je sais pas si ça répond à la question.
Ouais. Moi, je voyais cette idée de sortir quelque chose. Et...
Mmh. Ouais, ouais.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin. He said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. He said, Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt.
Nous vous invitons à retrouver les archives Gateway sur leur site internet où vous pourrez vous informer sur les événements qui ont été proposés, sur leurs prochaines actions. Vous pourrez aussi avoir accès aux références dont il a pu être question dans cette émission.
Le site c'est gateway.eu.org et on peut annoncer aussi qu'on fait des permanences ouvertes à tous le premier lundi de chaque mois. À la Maison Ouverte, 17 rue Hoche à Montreuil, au métro Mairie de Montreuil. Donc la prochaine permanence, elle aura lieu le lundi 6 janvier. Donc c'est de 18h à 20h. Voilà, c'est une forme un petit peu qu'on expérimente en ce moment, mais on l'a fait une fois et c'était assez intéressant. Donc on invite tous ceux qui veulent nous poser des questions, nous donner des documents, nous discuter un peu de cette initiative, se renseigner, apporter des idées, etc., à passer à ce moment-là pour en parler.
Maman.
Merci.